Bonjour. Je termine brièvement sur l'œuvre dont j'avais parlé à la fin du dernier cours. C'est donc ce remarquable plat actuellement impossible à situer, mais que donc j'ai eu la possibilité d'étudier dans une galerie d'antiquité à Londres en 2018. Donc on avait dit que c'est une œuvre hybride, parce que, et on va revenir là-dessus, techniquement, c'est un plat sassanide ancien, sans doute de la fin du IIIe siècle, mais du point de vue iconographique, c'est une œuvre complètement grecque, hein, qui est le plus grec de tout ce qu'on peut trouver dans le répertoire des plats sassanides, qui montre les trois grâces, Pacité, Aglaé et Une, dont le nom est un peu flottant selon les textes. Et c'est la célébration du mariage de la plus jeune d'entre elles, Pacité, qui épouse le dieu du sommeil, Hypnos. C'est une transposition assez directe d'un passage de l'Iliade qu'on avait commenté, où Hypnos reçoit en mariage. Il va grandir, hein, d'ici ses noces. Bon. Il reçoit en mariage. La plus jeune des trois grâces, pour prix d'un service qu'il a rendu à la déesse Héra. Dans ce passage d'Homère est décrit un magnifique trône que Héra a fait commander à son fils Héphaïstos pour Hypnos, un trône avec un tabouret pour les pieds, et c'est exactement ce qui est représenté ici. Alors, je ne reviens pas sur les sources grecques de cette œuvre, qui assez vraisemblablement a été exécutée à Alexandrie. On pense peut-être à l'époque de Cléopâtre ou vers l'époque de Cléopâtre, donc milieu 1er siècle avant. Et le prototype, ce n'est pas l'œuvre qui a été exécutée à Alexandrie, c'est son modèle. Et le modèle que nous n'avons plus aurait pu arriver sur les ports de la côte indienne, Barigaza ou Barbaricone, qui était connu à cette époque pour recevoir des vases précieux qui venaient de l'Empire romain. Et puis, il s'est retrouvé copié à un moment qu'on peut situer donc au début de la domination sassanide sur les anciens territoires couchants. Est-ce que ça a été fait en Bactriane? Est-ce que ça a été fait dans l'Inde du Nord-Ouest au Gandhara? C'est une question qu'on ne va pas arrêter de se poser avec ces plats d'Asie centrale, et c'est une question qui, en fait, n'a pas de réponse. Même quand on a des inscriptions de propriétaires dans des langues de ces pays, tout simplement parce que les commanditaires, qui étaient donc l'échelon supérieur de la société, étaient mobiles, puisque ces empires débordaient des deux côtés de l'Hindoukouche, et très vraisemblablement, les artisans, qui étaient peu nombreux, certainement à ce niveau, étaient également itinérants, et ils allaient travailler pour le plus offrant. Alors, la question maintenant de la transposition, qu'est-ce qui permet de dire que ça n'est pas une œuvre d'importation, que cet exemplaire a été fait au Gandhara ou en Bactriane? Eh bien, le fait que dans la transposition, disons, esthétique, notamment dans le code de la beauté féminine et des vêtements, les images ont été à la fois indianisées et iranisées. Alors, indianisées, je m'explique. Ce n'est pas vraiment exactement le canon de beauté grecque. C'est un peu, comment dirais-je, bollywoodisé. Voilà. Elles ont les hanches larges et les cuisses fortes qu'apprécie la sculpture indienne. Mais autant qu'indianisé, il y a aussi des traits qu'on peut dire peut-être plus particulièrement iraniens. Dans le vêtement, dans le modèle grec, elles n'auraient pas de chemise. Elles seraient nues jusqu'à la taille. On avait montré certains de ces modèles dans le cours précédent. Bien. Voilà, les noces Aldobrandines. Ben voilà, déjà, Caligula qui fait représenter ses trois sœurs, qui, sous les traits des trois grâces. Les noces Aldobrandines. Très bien que seule la mariée est vêtue d'un chiton, les autres sont nues jusqu'à la taille. Bien. Ici, on les a habillées non sans quelque maladresse. On leur a mis une chemise que je dirais faussement pudique. Ça cache rien. Bien. C'est ce qu'on appelle le drapé mouillé. Voilà. Assez caractéristique de l'art sassanide, notamment au début. Et alors, quelque chose qui est vraiment typiquement sassanide, vous voyez, ce sont les franges tombantes. Ça, ce n'est pas du tout grec. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les plats sassanides les plus anciens, ici, fin 3e siècle. Vous voyez, j'ai fait le zoom sur le bras du roi. Et vous voyez ces plis qui tombent en sinuosité rapprochée, un peu comme un galon. Ça n'est pas dans le modèle grec. Du point de vue du schéma corporel, il y a des traits qui évoquent assez le traitement des femmes dans l'art iranien. Les épaules larges, la poitrine beaucoup moins massive qu'en Inde, la poitrine ferme, décrite dans les textes Pehlevi, ferme comme des coins, etc. Donc c'est pas la grosse poitrine ronde des beautés indiennes. Et alors, un détail très précis, c'est les gestes des mains, vous voyez, avec les deux doigts du milieu rabattus et l'index et l'annulaire levés. Alors, on peut faire des rapprochements avec certains des gestes codifiés de la danse et du théâtre indien, qu'on appelle les mudras, mais les analogies les plus proches, on les trouve dans l'art sassanide. Vous voyez, ici, un plat qui représente c'est probablement une reine, c'est 3e siècle. Vous voyez la position des doigts avec l'index et l'auriculaire levé, c'est typique. Et cette position se retrouve exactement sur une intaille qui, elle, a été trouvée, vient d'Inde, hein, la région d'Ujjain. Un peu plus tardive, avec une inscription indienne, Ujjain, l'un des lieux où l'on importait la vaisselle de prestige alexandrine. On voit très bien que l'influence sassanide est également passée par là, hein, avec les rubans. Alors, plus tard, dans les mudras indiens, dans les traités qui codifient les mudras indiens, on va nous expliquer que ce geste, précisément, avec l'index et le pouce pincé et le petit doigt relevé, c'est un geste lié à la cueillette des fleurs dans un contexte amoureux. Bon. Mais c'est déjà dans les prototypes sassanides. Pour le canon féminin, voilà, c'est danseuses qu'on trouve sur les cruches plus tardives, les cruches sassanides plus tardives. On a encore la réminiscence de ces franges, mais plus schématisées que dans les œuvres plus anciennes, la façon dont le corps est traité, avec les hanches larges qui rappellent ce qu'on a en Inde, mais des poitrines traitées d'une manière différente. Donc, on est vraiment dans un canon esthétique qui n'est plus vraiment le canon des prototypes gréco-romains. Un détail également très significatif. C'est la cambrure extrêmement exagérée du pied. C'est pareil, c'est pas dans les modèles, mais on a ça dans la littérature Pélévi et même dans l'Avesta. On sait la femme, la beauté qu'on célèbre est supposée avoir la plante des pieds recourbée, Azer Pai Wishardag. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, je vous ai dit que ce plat était inscrit. L'inscription. En fait, il y a deux inscriptions. Brève, mais très instructive. Une inscription Pélévi, en caractère Pélévi, qu'on peut dater. La forme des lettres indique assez l'époque sassanide ancienne, 3e siècle. C'est l'inscription de poids. Presque tous ces objets portent. C'est avant tout, je vous l'ai dit, avant d'être des œuvres d'art, ce sont des capitaux en métal précieux, et ce qui compte avant tout dans les inventaires, c'est le poids. Et là, il est donc dit, il est écrit 150 stataires. Le S, 150, c'est-à-dire le stataire à peu près 16 grammes, donc ça correspond, et en fait, ça correspond au poids d'à peu près 2 kg qu'a aujourd'hui l'objet. Et puis, une inscription en bactrien, faite comme souvent au pointillé, pas facile à lire, mais Sims Williams a pu tout lire. Assez souvent, on trouve les deux langues associées. Donc, le bactrien qui recycle des caractères de l'alphabet grec, hein, vous reconnaissez très bien le F, le Phi ici, etc. Alors, cette inscription se lit appartient à la femme de Brahmadad, 150 stataires. Hein, il y a une différence dans la mesure du poids. Alors, elle peut s'expliquer, il y aurait deux explications possibles. La première inscription serait vraiment l'inscription de commande, et ce serait le poids indiqué par l'orfèvre. La quantité d'argent qu'il a utilisé pour son œuvre. Et évidemment, ça ne pouvait être qu'assez approximatif, parce que dans le travail de l'orfèvre, il y a forcément un peu de perte. Bon. Alors ici, curieusement, l'inscription d'inventaire donne un poids un peu supérieur, mais on sait qu'ils n'avaient pas des balances de précision, des balances électroniques, ils mesuraient parfois avec des pièces de monnaie. Or, qui était selon le même étalon. Or, ces pièces de monnaie avaient tendance à s'user. Donc, plus les pièces de monnaie avec lesquelles on va mesurer un objet sont usées, plus ça va donner un poids conventionnel élevé. De toute façon, vous voyez, la nuance est très faible. La femme, on ne connaît pas son nom, je vais revenir sur ce point curieux. Le mari est nommé Brahmadad. Alors, on voit tout, c'est un nom hybride. Brahma, rien, le grand dieu créateur de l'Inde, ça, pas de problème. Le fait que ce nom soit celui d'une divinité hindoue n'exclut pas que le personnage ait pu être bouddhiste. Il y a des noms avec des divinités indiennes dans le bouddhisme. Et puis le suivi, Dad. Alors, très intéressant parce que normalement, en indien, on attend Brahmadatta, créé par Brahma. Et ça aurait dû être transcrit Brahmadat ou Brahmadatto en bactrien. Et puis, là, c'est, en fait, la terminaison du nom a été iranisée selon un type de nom Pélévi, donc le sassanide, extrêmement répandu avec Dard, qui veut dire également donné par. Donc, on voit qu'on a un. C'est un personnage transculturel. C'est un Indien, on ne sait pas si c'est un hindou ou un bouddhiste, mais en tout cas, il a visiblement vécu dans un milieu où il fallait iraniser son nom. On peut aller un peu plus précisément. Gérard Foussman, que j'avais consulté, m'avait expliqué qu'à cette époque, les noms indiens en datta deviennent assez caractéristiques de la caste des marchands. Ce n'est pas des noms de brahmanes, ce n'est pas des noms de guerriers, c'est plutôt des noms de marchands. Alors, voilà, ça nous permet un peu de cerner le personnage. Alors, la femme n'est pas nommée. Alors, le mot pour femme, je n'ai pas transcrit ici le bactrien, le mot pour femme qui est employé n'est pas le mot habituel wol, femme, épouse. C'est le mot finds, qui appartient à un registre plus distingué. Finds, c'est la maîtresse de maison, étymologiquement, celle qui s'occupe du bétail. Bien. Donc, on nous explique que cette femme, c'est la maîtresse de maison. Mais elle n'est pas nommée. Elle n'est pas nommée. C'est curieux, parce que on a par ailleurs des inscriptions indiennes, en fait, sur des plats, où quand le plat est donné ou appartient à une femme, elle est nommée. Ici, elle ne l'est pas. Alors, je hasarderai une hypothèse, où vous verrez peut-être le signe de ma, comment dirais-je, de ma méchanceté d'esprit. Le mari ayant dépensé une somme pareille, qui devait être quand même énorme, pour la réalisation de cet objet, je vous ai dit que la dernière fois, l'artiste est un vrai virtuose. On a très rarement une telle qualité d'exécution avec des pièces qui sont martelées à part, insérées, sans qu'on s'en aperçoive, etc. Il avait dépensé tellement d'argent que peut-être il a pris une précaution au cas où cette femme n'aurait pas été la dernière. Ça pouvait resservir en cas de veuvage ou de divorce. Voilà. Il n'est plus là pour nous le dire, mais je ne serais pas éloigné de penser que c'était ça. Alors, en conclusion, le propriétaire, qui, dans ce contexte, est sans doute, en fait, le commanditaire, on y verrait moi, j'y verrais un riche marchand indien qui était proche des cercles du pouvoir sassanide, soit en Bactriane, soit au Gandhara. On sait qu'à cette époque, les conquêtes sassanides en Bactriane ont débordé au sud de l'Hindoukouche. Alors, son statut de marchand, peut-être, lui aurait donné un accès particulier à cette vaisselle d'argent romano-égyptienne dont on nous dit qu'elle était importée dans les ports indiens. Alors, peut-être, il a eu accès au prototype de ce plat, une importation ancienne ou une importation récente. En tout cas, une chose est absolument sûre. Il avait un bon vernis de culture grecque. Et il y a quelque chose qui le démontre absolument, c'est que ce type de plat célébrant le mariage de Pasité, c'est typiquement un cadeau de mariage. On n'a pas l'équivalent de ce plat en Grèce ou à Rome, mais évidemment, le contexte indique que C'était un cadeau de mariage ou un cadeau pour une épouse. Et cette signification, il la connaissait, puisqu'il a offert ce plat à son épouse. Donc là, on a un exemple convaincant d'une préservation sémantique. On savait toujours à quoi ce genre de plat pouvait servir. Probablement, cette légende de Pasité et d'Hypnos circulait encore. Elle n'était pas inconnue du milieu du commanditaire. Alors, j'en viens maintenant à la suite des créations. Avec ce plat, on a donc abordé les changements très importants qui sont apparus dans ce répertoire de l'argenterie à partir des conquêtes sassanides qui ont commencé donc, vers le milieu du IIIe siècle. Sur ces changements dans l'argenterie de prestige, pas seulement l'argenterie d'ailleurs, il y a un article récent, vraiment très intéressant, de Judith Lerner, qui est une des rares grandes spécialistes de ce répertoire. Visual Culture of Greater Iran, Some Examples of Kushano-Sassanian Art, où elle analyse avec certaines œuvres de peinture et autres. Elle analyse les trois plats que je vais aborder maintenant. Elle ne, au moment où l'article est paru, elle ne connaissait pas encore celui dont je viens de traiter, qui n'était qui est apparu seulement ensuite. Alors, voilà un plat très spectaculaire que j'appelle le plat d'Hormis d'Ardashir. Enfin, voilà. Ici, plat Al-Sabah. Al-Sabah, c'est la collection de l'émir du Koweït. En partie exposée au musée du Koweït, en partie non. Mais les conservateurs permettent très libéralement aux savants étrangers d'étudier les œuvres. On obtient facilement les photos gratuitement, ce qui n'est vraiment pas le cas avec tous les musées qui détiennent ces trésors. Je dis d'Hormis d'Ardashir parce qu'on a le nom du propriétaire, c'est le propriétaire, on a son nom sur une inscription, et cette inscription, un peu en fait, comme celle du plat précédent, on peut raisonnablement, par l'épigraphie, la dater de la fin du IIIe siècle. Alors, ce plat inaugure un répertoire proprement central-asiatique des chasses royales ou des chasses princières. Alors, je vous dis proprement central-asiatique, et pourtant, l'année dernière, on a fait presque que voir des plats à scène de chasse sassanide. Oui, mais il y a une grosse différence. Sur les plats à scène de chasse sassanide, il n'y a qu'un chasseur, et qui, à partir d'un certain moment, le début du IVe siècle, n'est plus que le roi des rois. Et sur les plats de chasse d'Asie centrale, c'est toujours collectif. Enfin, c'est presque toujours collectif. Je vais vous montrer quelques exceptions. En général, la chasse ne sert pas à exalter le pouvoir solitaire du roi des rois. Elle sert à montrer un compagnonnage entre le roi et ses nobles ou entre plusieurs aristocrates. C'est vraiment une différence très importante. Alors, quelques exemples que je montre ici sur lesquels je vais être amené à revenir. C'est les détails de ce plat. Oui, voilà, le bol dit de Vereino, probablement 5e siècle, à l'Ermitage. Vous voyez, il y a trois chasseurs, et selon une hypothèse que nous avons émise avec Ankadan, mais qui doit être vérifiée sur l'original, nous espérons pouvoir le faire à Saint-Pétersbourg dans une dizaine de jours, le chasseur n'est pas un souverain contemporain, c'est Alexandre. Ce serait Alexandre, soit représenté trois fois, soit plus probablement représenté avec deux compagnons de chasse. Et on sait par les textes sur Alexandre qu'il y a eu plusieurs épisodes très fameux de chasse où à chaque fois il a un compagnon qui lui sauve la vie. Un autre plat qu'on va voir aussi, voilà ce qu'on appelle le bol du Swat. Il a été trouvé dans le Swat, nord du Pakistan, 5e siècle aussi. Et vous voyez, là, il y a quatre chasseurs. Et en plus, ils sont différenciés, très nettement. Ils ont des couronnes différentes. Et ça peut se commenter. On peut savoir exactement qui ils étaient et quelle était l'intention derrière tout ça. Donc, des chasses collectives. Ce plat de la collection Al-Sabah, j'en ai déjà parlé l'an dernier, en introduction à mon cours, parce que c'est l'illustration la plus parfaite d'un poème arabe du IXe siècle, du poète Abu Nuwas, qui explique qu'il participait à des pique-niques avec de grands aristocrates iraniens, et la coupe circulait, et on mettait du vin dans la coupe. Et effectivement, ici, en théorie, on peut verser du vin sur les figures. Ce n'est pas décoré à l'extérieur, comme la plupart des bols que je vais montrer plus tôt, ensuite. C'est décoré à l'intérieur. Il est dit dans ce poème que quand on rajoute de l'eau, ça ne monte pas plus haut que les ceintures des chasseurs. C'est une manière de dire on ne rajoute pas beaucoup d'eau. Voilà. On boit son 12,5 degrés, très peu coupé. Bon, c'est une astuce. En tout cas, c'est de tous les plats connus, c'est celui qui se rapproche le plus de l'objet que Abu Nuwas a eu entre les mains. Alors, on retrouve la convention sassanide de l'animal dédoublé, vous voyez, qui apparaît très tôt dans ce répertoire, alors, donc, qui est commune avec les plats exécutés en Iran. À la fois dédoublé, c'est probablement dans la plupart des cas, c'est pas un couple d'animaux, c'est le même. C'est le même vivant et mort, ou vivant et blessé. L'argument principal, un des arguments principaux pour situer ce plat à l'est, c'est la nature du gibier. Bon, dans certains cas, vous voyez ici un ibex. Là, ici, ce n'est pas dédoublé, c'est l'ibex et son petit. Là, des mouflons qui sont représentés par vivant, mort. Alors ça, l'ibex et le mouflon, on les trouve en Iran. C'est très fréquent sur les places sassanides. Mais le félin n'est pas un lion, ni même un tigre parfois représenté sur les places sassanides. C'est la panthère des neiges, représentée d'une manière... C'est la panthère des neiges représentée d'une manière vraiment très réaliste, hein, avec les taches. C'est presque parfait. Hein, elle a la queue un peu plus poilue dans la réalité, mais c'est tout. Or, cette panthère des neiges, elle est vraiment... on ne la trouve pas en Iran. Si on voit les cartes de répartition actuelles de l'espèce, c'est vraiment au Tibet, dans l'Himalaya et dans les montagnes tout à fait à l'est de l'Afghanistan qu'on la trouve. Ce n'est pas ailleurs. Donc ici, on a bien voulu montrer que ça se passe, je dirais, dans l'Hindoukouche ou au Badakhshan, ça ne se passe pas en Iran. Alors, un argument... pour dater également très assez haut, c'est le type de la coiffure, n'est-ce pas ? D'abord, le bonnet, c'est pas la tiare droite, c'est un type de bonnet à boule projetée vers l'avant qu'on appelle le collar, et il disparaît de l'argenterie sassanide après le IIIe siècle. C'est vraiment quelque chose de caractéristique de l'époque ancienne. Et par ailleurs, la coiffure avec ses nattes, dans certains cas, on a une coiffure qu'on retrouve plus fréquemment ensuite, voilà, avec des cheveux frisés à l'arrière. Mais la coiffure avec les nattes, elle est plutôt caractéristique de souverains contemporain, c'est-à-dire, disons, voilà, de la fin du IIIe siècle, Vahram Ier, et justement, c'est une monnaie qui a été frappée à Bactre, hein, Vahram Ier, le successeur immédiat, l'un des successeurs immédiats de Shapur Ier, et son frère Narsé, qui a régné plus tard. Alors, le personnage s'appelle... Voilà, l'inscription donc le désigne. Inscription d'Hormis d'Ardashir, fils de Péroz, fils de Karlsroy, argent martelé, 115 statères. Alors pourquoi j'ai transcrit ici en majuscule ? C'est ce qu'on appelle un idéogramme. C'est qu'en Pélévi, normalement, en général, c'est transcrit en phonétique. Mais dans certains cas, ils ont continué à utiliser des graphies de noms tel que c'était en araméen. Et généralement, on sait à quel mot iranien la graphie araméenne correspond. Mais il se trouve qu'ici, on ne sait pas, parce que c'est un cas unique. En araméen, on sait ce que ça veut dire, c'est la racine qui veut dire frapper. Donc, mais on ne sait pas quel mot iranien est derrière, peut-être le verbe koubidan qui veut dire frapper. Bon, alors donc, en tout cas, ça veut dire argent martelé. Le nom est intéressant, Hormis Ardashir. C'est un nom composé, assez complexe. Or, on sait que le roi qui avait précédé celui-là, qui n'a pas régné longtemps, un an seulement, le fils aîné de Shapur, s'appelait, on l'appelle Hormis de premier, mais en fait, son vrai nom, dans les inscriptions, c'est Hormis d'Ardashir. On a des exemples. On voit que des personnages semblent être nés ou du moins avoir reçu leur nom. Alors peut-être on le recevait seulement quand on arrivait à l'âge adulte, qui était en Iran de 13 ans. Ils ont été nommés en fonction du roi qui régnait à ce moment-là. Donc je supposerais que le propriétaire du plat peut-être était né justement vers 270. Ça daterait le plat. Et alors, on a un autre critère, c'est qu'on a sa généalogie. Alors, le père, on ne le connaît pas, mais son grand-père, on le connaît. Karl Sroy. Parce qu'il n'y a qu'un seul personnage dans toute l'histoire sassanide qui s'appelle comme ça. Et c'est un personnage qui est nommé dans la grande inscription de Shapur Ier, qu'on appelle donc la Kaaba de Zoroastre. Shapur relate ses victoires contre Rome, et au début, il donne toute la liste des dignitaires qui étaient à la cour de son grand-père, de son père, et il nomme un certain Karl Sroy, auquel il donne le titre de Bidarche. Alors, c'est un titre qu'on a un peu de mal à cerner. Étymologiquement, ça veut dire celui qui règne en deuxième. Alors, dans certains cas, on voit qu'effectivement, parfois, c'est un titre qui semble avoir été un petit peu galvaudé, mais parfois, c'est assez précis, ça désigne un vice-roi ou un margrave, un commandant de frontière. Donc, je supposerais que ce Karl Sroy avait été peut-être appointé comme gouverneur local ou, disons, administrateur dans les territoires nouvellement conquis en Bactriane, quand ils ont conquis ça sur les couchants, sous Shapur Ier, on va dire au milieu du IIIe siècle, et que ses descendants auraient continué à exercer une position importante dans ces territoires. Alors, vous me direz, c'est quand même curieux, parce que on n'a aucun titre, on n'a que les noms. Mais ça s'observe parfois dans ces inscriptions des plats, peut-être parce que on distinguait soigneusement la propriété personnelle. Et que, voilà, ces plats étant un bien personnel, acquis de ses propres deniers, on n'éprouvait pas le besoin de rappeler le titre du personnage. Ce Karl Sroy, le grand-père, qui aurait pu exercer la fonction donc, de bidarche, de vice-roi, en Bactriane, je rappelle qu'il y a toujours au nord-est de l'Afghanistan une région qui s'appelle le Badarchan. C'est là où on trouve le lapis lazuli. Et une des hypothèses les plus vraisemblables pour l'origine du nom du Badarchan, c'est justement que ça aurait été l'ancien district. Ça rappellerait le souvenir d'une époque où c'était administré par un bidarche. Donc là, on tombe sur quelque chose d'assez précis. Alors, oui, bon, voilà, ça commence. Au début, on n'a pas perdu grand-chose. Simplement, j'avais montré là. Il y a une belle vue de détail de ce plat d'Hormis d'Ardashir. Vous voyez, alors là, on voit très bien la forme du chapeau et puis les deux panthères. Et celle-là, elle a même une flèche dans le cou. Donc, c'est la même, vivante et morte. Et là, on voit bien que c'est la panthère des neiges. Il paraît qu'il y a un beau documentaire actuellement sur les panthères des neiges. Voilà. Là, voilà. Alors, c'est vraiment, l'artiste avait vu, il savait ce que c'était qu'une panthère des neiges, il l'avait vu. Voilà l'aire de répartition de la panthère des neiges, vous voyez, et l'Afghanistan est ici, donc c'est vraiment, c'est au Tadjikistan, c'est en Afghanistan, c'est vraiment les frontières, extrême à l'est. Alors, bon, c'est la carte actuelle. Elle a pu avoir une aire de répartition un peu plus grande dans le passé. Ça a pu déborder sur l'Hindoukouch, mais sans doute pas en Iran. Je n'en connais pas de représentation en Iran. Oui, voilà donc les nattes de notre Hormis d'Ardashir, qui est évidemment, c'est évidemment lui le personnage qui est sur le médaillon ici et qu'on voit plus haut. Voilà, dans l'axe. En fait, la lecture se fait de droite à gauche, c'est toujours le cas sur ce genre de plat. Et la clé, c'est qu'il faut prendre le médaillon du fond, c'est elle qui indique l'heure, si vous voulez. Et on part juste en haut et on commence comme ça. Donc évidemment, lui et lui, c'est le même. C'est le commanditaire, c'est le personnage principal. Les autres, qui n'ont pas la même coiffure, visiblement différenciée, ce sont des compagnons. Au siècle, donc, à partir du IVe siècle, on a toujours une production locale qui continue, et puis on a, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'on a une école officielle de plats royaux sassanides qui s'établit vraiment sur la frontière est. On pense à Merv, voilà, qui était le grand centre d'appui du pouvoir sassanide à l'est. Et cette école a également représenté des rois. Elle est différente, elle a des conventions un peu différentes de l'école dite de la cour. L'école de Merv, c'est ce qu'on appelle l'école à ligne continue ondulée, ouais, qui se rattache encore d'assez près au style dit naturaliste, dont j'ai parlé pour le IIIe siècle. L'école des plats sassanides de la cour, c'est plus raide. Quoi. Les drapés sont représentés par des lignes segmentées qui vont par paires. Alors, dans certains cas, dans l'école de Merv, en général, c'est le roi des rois qui est représenté, le roi sassanide, parfois quand même d'autres personnages. En tout cas, il n'y a pas de chasse collective, qui est vraiment typique de ce qu'on a localement en Asie centrale. Dans certains cas, ce n'est pas facile de distinguer entre prince local et roi des rois, puisque les princes locaux, surtout quand ils étaient éloignés du pouvoir, avaient évidemment tendance à imiter l'apparence du roi des rois. Alors, voilà un plat très connu à l'Ermitage. Bon, c'est vraiment un des plus beaux. Il est dans un état de conservation absolument remarquable. Comme la plupart de ces plats de l'Ermitage, il a été trouvé dans une tombe de l'Oural au début du XXe siècle. Donc il n'y a pas de doute sur l'authenticité. Alors vous voyez un naturalisme quand même assez... Enfin, naturalisme, ce n'est pas du naturalisme, c'est de l'épopée. Le roi, le cheval du roi se cabre parce qu'il y a deux sangliers. Alors, est-ce que c'est le même sanglier vivant et mort ou est-ce que c'est vraiment deux sangliers qui sortent des tailles réalistes d'un marécage. Le sanglier n'est jamais représenté comme un animal de montagne, il est représenté comme un animal des marais. Et le roi, évidemment, abat ce sanglier, et en même temps, il est en position délicate, mais grâce à sa bravoure exceptionnelle, il arrive à le surmonter. Il s'accroche de la main au cou de son cheval qui se cabre, et il balance sa jambe en arrière pour ne pas perdre l'équilibre. Alors, je rappelle qu'on est ici au IVe siècle, ils n'ont pas encore inventé les étriers. Ou plutôt, ils ne les ont pas encore adoptés chez les peuples de la steppe qui les ont inventés. Ça n'arrivera chez les Sassanides que tout à fait à la fin. Alors, qui est ce roi ? Il porte une couronne avec des cornes de bélier. Alors, pendant longtemps, et c'était l'opinion donc, de Marchak, ben, il l'identifiait comme un roi local, justement, de cette dynastie dont j'ai déjà parlé, les Kouchano-Sassanides. En fait, à peu près à partir de 280 jusqu'en 400, les Sassanides, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, ont laissé le gouvernement des territoires orientaux à des princes qui leur étaient subordonnés, mais qui tout de même frappaient monnaie, y compris monnaie d'or. Bon, on pense, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est une branche cadette de la dynastie. Ils ont fait un peu la même chose en Arménie à certaines époques. c'est ces territoires qu'on avait du mal à tenir. Alors, bon, il fallait quand même leur donner un roi, mais on prenait ce roi dans la famille royale pour qu'il soit fidèle. Alors, il se trouve qu'il y en a un au milieu du IVe siècle, effectivement, Wahram II, il y a un Wahram I avant, qui a cette couronne. Mais ça se complique parce qu'il semblerait maintenant que son contemporain, le roi des rois, Shapur II, avait parfois la même couronne. Alors, on s'appuie surtout sur ce texte d'Amien Marcellin, qui a vu Shapur II, puisqu'à la guerre en Haute-Mésopotamie, au siège d'Amida, aujourd'hui Diyarbakır en Turquie, il était dans la garnison et il a vu le roi parce que le roi faisait une espèce de promenade de défi au pied du rempart. D'ailleurs, la promenade de défi a failli mal se finir parce qu'il a failli prendre un carreau d'arbalète dans la figure et du coup, il a fait massacrer la population quand la ville s'est rendue. Alors, le roi, donc il s'agit de Shapur II, monté sur son cheval et dépassant les autres par sa taille, menait en personne toutes les armées, arborant en guise de diadème une coiffure d'or chatoyante de pierreries qui figurait une tête de bélier. Voilà, alors, donc, il avait effectivement parfois, en général, Shapur II, il a presque toujours une couronne de merlon, hein, comme son ancêtre Shapur Ier. Là, on nous le décrit avec une tête de bélier. On trouve toujours des solutions. Alors là, la solution qu'on a trouvée, c'est Amien Marcellin a confondu le roi des rois avec un de ses vassaux, le roi Kouchanou-Sassanide. On sait, Amien Marcellin nous dit effectivement qu'il y avait des contingents couchants amenés par Shapur II à ce siège. Il ne parle pas du roi des couchants, il parle de contingents couchants. On dit, en fait, Shapur II a envoyé un de ses sous-fifres pour s'exposer au pied du rempart. Il n'aurait jamais fait la bêtise lui-même de prendre ce risque. Quand on invente des... C'est toujours très facile d'inventer des solutions psychologiques quand on n'arrive pas à résoudre le problème. Et puis, patatras, il y a quelques années, on trouve une monnaie d'or, c'est sur le marché des antiquités, où on voit Shapur II qui porte cette couronne de bélier. Alors là aussi, tentative de récupérer l'ancienne hypothèse, c'est un faux. Il y a un faussaire qui a pris le texte d'Amien Marcellin et qui a voulu faire le malin et qui a inventé cette monnaie. Bon, aux dernières nouvelles, les meilleurs spécialistes des monnaies sassanides, comme Michael Alram à Vienne, Schindler, pensent qu'elle est authentique. C'est ce que je pense aussi. Donc, je dirais que ici, je verrais plutôt Shapur II, hein, mais représenté sur un plat de l'école de Merve, et ce n'est pas du tout étonnant, puisqu'on sait qu'il a passé plus d'un an à Merve quand il commandait les opérations sur le front de l'Est. Merve s'est même appelée à partir de cette époque Marvi Shahigan, Merve la Royale, c'était vraiment la deuxième capitale de l'Iran. Dans certaines circonstances, il portait ce type de coiffure. Alors, peut-être, on peut essayer de raisonner. Comme dit Rouletabille, passer par le bon bout de sa raison, peut-être portait-il ce type de casque, de couronne, dans des circonstances où elle avait particulièrement besoin du dieu qui était représenté là. Or, il se trouve que Wahram, le dieu de la guerre et de la victoire, a plusieurs incarnations animales, dont le sanglier et dont le mouflon. Et je me dis, du coup, là, il a besoin du dieu Wahram, parce qu'il va combattre un sanglier. Et au siège d'Amida, il a besoin du dieu Warram parce qu'il est à la guerre et qu'il s'expose au danger. Voilà, donc j'irai pas plus loin, mais bon, je pense que ça, l'explication pourrait se trouver dans cette zone. Alors, on retourne, j'avais parlé de trois plats qui marquent bien les débuts de cette nouvelle époque dans l'argenterie de prestige en Asie centrale. Là, on retourne assez sûrement chez les Kushano-Sassanides avec un plat du British Museum qui y est depuis très longtemps. Donc, c'est pareil, ça ne peut pas être un faux, il est connu depuis très longtemps. Et qui d'ailleurs est toujours indiqué comme plat Kushano-Sassanide. Alors, c'est un. Je le date aussi de la fin du IIIe siècle. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est vraiment pas fait comme un plat sassanide. Parce qu'il est, voilà, il est très complexe. Les plats sassanides sont vraiment centrés sur l'exaltation de la personne royale. On voit vraiment que lui est sa proie. Hein. Ou alors, quand il est sur son trône, il est vraiment très central, il y a les dignités autour. Ici, c'est très foisonnant. Hein. C'est très foisonnant, c'est très narratif. Hein. C'est vraiment déjà comme ce qu'on va rencontrer ensuite avec ces plats d'Asie centrale. Il faut partir de l'idée que le schéma de composition est inspiré assez probablement de la vaisselle impériale romaine. Et il y avait un type de plat qu'on appelait les missoria. C'était donc les plats qu'on envoyait hein, en cadeau. Alors vous n'avez qu'à penser aux missi dominici de Charlemagne. Les missoria, c'est une catégorie de plats bien connue. Et il se trouve qu'ils sont également, selon ce schéma, c'est-à-dire qu'il y a deux secteurs. Parfois, le bord porte des motifs. Et puis, il y a deux secteurs au centre, un secteur plus petit vers le bas et plus développé vers le haut. Et le secteur plus petit, en fait, donne la clé. Ça nous indique ça a une signification symbolique peut-être plus importante. On a vu le même schéma avec le plat des Trois Grâces. Vous voyez, la scène du mariage, de l'union, elle est en bas. Et ce qu'on a en haut, c'est en fait une scène qui est un peu accessoire par la scène de l'union, puisque c'est les préparatifs de la mariée. Donc, il faut partir de cette idée pour essayer d'interpréter ce plat. C'est pas facile. Je vais vous fournir mon explication. J'en suis pas certain à 100%, mais il faut bien essayer tout ça est évidemment intentionnel. Voilà. Donc il faut essayer de trouver les clés. Alors on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire le tour. Vous voyez tout de suite, seule la moitié est conservée. C'est une scène de banquet avec des personnages qui semblent ne pas être royaux. Il n'y a aucun signe de... Il n'y a pas de ruban pour les hommes, il n'y a pas de couronne. Un personnage plus grand que les autres, qui est assis sur son lit, vraisemblablement, c'est le propriétaire. C'est pas le roi, mais c'est un personnage important, c'est le propriétaire du plat. Et alors, vous voyez devant lui trois femmes et derrière lui deux hommes. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est le propriétaire, ses deux fils et les trois épouses. Vous voyez aussi que il y a des fleurs qui circulent. En fait, au total, il y a une, deux, trois fleurs qui circulent, dont une tenue par le propriétaire. Trois fleurs, trois couples. Il y a un échange. Il donne une fleur à sa femme qui est devant lui. D'ailleurs, elle tend la main comme pour la recevoir. Celle-là, peut-être, donne à celui-là. Et celui-là donne à celle-là. Celle-là, qu'est-ce qu'elle tient? Je me demande si elle ne tient pas à une quenouille, indiquant ses qualités domestiques. Bien. Derrière, vous avez donc un personnage debout qui tient un objet assez long, un personnage qui joue de la trompette. et ce petit personnage qui gigote, qui s'agite. Alors, j'avais pensé au début que c'était un des enfants. Et bon, grâce à Ankadan, j'ai une autre explication et qui me convainc totalement. C'est un nain. Voilà. Alors, vous avez ici, et ce n'est pas la seule représentation de nains dans le répertoire des sarcophages des tombeaux sogdiens de Chine, vous avez le relief funéraire d'Anxia, 579. J'en ai parlé à mon cours il y a quelques années. Vous avez une scène de banquet. Alors, c'est pareil, le personnage est donc assis en pose de relaxation sur sa banquette. Un joueur de luth. Ici, on ne voit pas très bien. Et là, un joueur de harpe. Ici, ce sont des nains. Représentés souvent comme ça dans l'art chinois. Ils sont toujours en train de danser. C'était des figures amusantes. Il y avait tout un commerce. Des peuples. Je crois, il y avait une île dans l'océan Indien qui était spécialisée dans l'élevage des nains. Et on les envoyait à la cour de Chine. Bon, et c'est ce qu'on a ici. Voilà. Donc c'est la distraction du banquet. Ici, donc, évidemment, un joueur de trompette. Ici, c'est mal conservé, mais je n'exclurais pas que c'est un joueur de luth et que le manche du luth devait se trouver ici et à sauter, puisque ce plat est, selon la technique, des pièces insérées, donc certaines ont sauté. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans cette partie gauche ? On voit que la scène ici est délimitée par un arbre. Donc c'est un procédé qu'on va souvent retrouver. Et ça veut dire que c'est en plein air. Ce banquet se déroule dans un jardin. Bien. Alors ça peut être le début de la scène du banquet. Ça pourrait être aussi une scène d'une autre nature. Pourquoi pas une chasse ? Alors maintenant j'en viens à la partie centrale. Il y a quatre personnages. Trois sont des dieux ou des rois, parce qu'ils ont des rubans flottants, et l'un n'est ni un dieu ni un roi. Alors, dans l'interprétation que je propose, ici, on a le propriétaire du plat, qui montre qu'il a été honoré par le roi. Le roi est ici, sur son trône, porté par des phénix. Et alors, le type même, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'anneau d'investiture. En fait, c'est pas forcément un anneau, ça pourrait être une couronne tressée. C'est un symbole, disons, de légitimité, de charisme, voilà. Et il est tendu, mais vous voyez, par rapport à ce... il n'est pas enrubanné, quand même. Donc, je dirais, c'est la transmission d'une autorité, mais d'une autorité qui n'est pas royale. Ce qui correspond à l'idée d'une autorité non royale dans cette culture, c'est ce qu'on appelle le farn, le principe de la fortune, la chance, mais en même temps le charisme, l'autorité. Ici, il y a une certaine forme d'autorité conférée par le roi à personnage qui doit donc, à mon avis, être investi, je dirais, comme gouverneur. Bon. Au-dessus, le roi lui-même est investi d'un symbole du charisme qui est représenté parfois par un ruban dénoué. Alors, ruban noué, ruban dénoué, il y a tout un jeu là-dessus qui n'est pas complètement élucidé. Mais on voit que ça doit tourner autour de ça. Avec un petit angelot qui vole. C'est un héros masculin. Alors, ça vient du type hellénique, du type grec, de la déesse Niké de la victoire, qui volait et qui apportait une couronne au vainqueur. Mais depuis le 1er siècle avant notre ère, dans les représentations iraniennes, la Niké est souvent masculinisée. Et je pense que la raison, c'est que le mot farne, qui est donc cette espèce de principe de charisme symbolisé par ces objets, est masculin, et associé à un dieu qui est masculin, parfois assimilé à Hermès. Donc on a voulu masculiniser ce principe. Alors, pourquoi on pourrait dire, mais pourquoi le roi ? Pourquoi pas un dieu ? Oui, mais je ne crois pas que ça puisse être un dieu. D'abord, quel dieu sur ce trône de griffon ? On peut penser à Mithra, mais Mithra n'est pas sur un trône de griffon. Mithra est sur un trône de chevaux, les chevaux solaires. Bon, le dieu suprême, Ahura Mazda, difficile à croire aussi. Le dieu, normalement, le dieu n'est pas investi du farne, parce qu'il l'a par essence, il l'a déjà. Et par ailleurs, les dieux n'investissent que des rois. Ils n'investissent pas des subalternes. Donc, à mon avis, c'est le roi. Et on pourrait objecter que, oui, mais il n'a pas de couronne. Enfin, on ne voit pas de couronne, sauf qu'ici, quand même, on voit trois espèces d'ornements sur le diadème. C'est mal conservé. Il faudrait aller voir au British Museum. Je ne suis même pas sûr que ça donnerait des certitudes parce que l'objet est quand même très usé. Mais enfin, on voit que les premiers rois Kushano-Sassanides n'ont pas la sphère avec ornement astral qu'ont en général les rois sassanides sur la tête. Vous voyez, c'est les premiers et ça pourrait éventuellement... Moi, je comparerais volontiers ce qu'on voit ici à ce qu'on voit ici. Le roi Kushano Sassanide Péroz, fin du IIIe siècle. Bon, ça m'irait assez bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, oui, quand même peut-être... Oui, je vais tout de même montrer deux autres images. Oui, voilà, oui. Le roi, donc si c'est lui, on voit mal ici, mais il a des espèces de flammes qui lui sortent du visage. Mais ça, c'est pas étonnant, vous voyez. Les rois Kushano-Sassanides pouvaient avoir des flammes qui leur sortaient des épaules. Là aussi, c'est c'est l'idée du farne. Je termine avec un parallèle d'époque Kushan. C'est une extraordinaire œuvre, malheureusement, évidemment, pas très bien conservée. C'est une peinture sur coton. Dans une collection privée à Bangkok. Elle était exposée dans une galerie à Paris il y a quelques années, elle n'a pas trouvé acheteur. Ça a été trouvé très vraisemblablement en Chine, dans la région de Khotan. C'est une œuvre officielle de propagande Kushan. C'est le roi Uvishka. Vous voyez à nouveau le petit amour qui lui apporte le ruban dénoué de la légitimité royale. Donc, ça se trouve pas, je dirais pas que ça se trouve pas dans l'art sassanide vraiment. C'est vraiment plutôt un héritage couchant. On commentera ça à nouveau, mais je ne peux pas, pour terminer, m'empêcher de comparer. Donc voilà, comment est-ce qu'on identifie Uvishka, le roi Uvishka, ce roi couchant qui a régné d'environ 150 à 180? Par ses traits qui sont connus par les monnaies, le voilà plus jeune, avec des traits qui ne sont pas sans évoquer un chef d'État qui nous est plus familier. Voilà, je termine là-dessus et voilà, nous continuerons sur ce répertoire la semaine prochaine. Après quoi, ce sera les congés de février. Merci.